Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment manger de façon gourmande et saine ? Cet automne, c'est notre question ce matin. Avec le magazine Elle à table, nous évoquerons les qualités nutritionnelles de quelques produits gourmands de saison, comme par exemple les champignons. Quels sont les bons aliments de saison pour préserver son foie en bonne santé ? Comment ne pas trop grossir dans une période où l'on a plutôt envie de manger des aliments gras et sucrés ? Avec l'arrivée prochaine de l'heure d'hiver et des premiers frimas, les gaufres à la Chantilly l'emporte bien souvent sur les bâtonnets de carottes. Enfin, coup de projecteur sur les bocaux maison qui permettent de manger sain, économique, en évitant le gaspillage. Avec nous en studio, le docteur Catherine Lacronière, le chef Grégory Cohen et Danielle Jarkens, directrice de la rédaction d'Elle à table. Quelle recette gourmande, saine et de saison avez-vous envie de partager ce matin ? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Cette semaine, c'est Christina Pelédouel qui assure l'esprit d'escalier en l'absence de notre camarade Guillemette Odissino. Bonjour Christina.
Bonjour Annie, ça commence bien.
Oui, il sera question de cueillette ce matin.
Yes, de cueillette de champignons en forêt, les délices de la cueillette de champignons, puis évidemment la dégustation après.
Évidemment.
C'est tout un art.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébé.
Et pour nous aider à manger bon et sain et de saison, trois invités, le docteur Catherine Lacronière, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin nutritionniste, experte régulière de cette émission. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali.
Chef du restaurant 99 Haussmann à Paris. Merci pour la brioche que vous nous avez amenée.
Plaisir,
brioche
toujours.
À la praline.
Praline.
Bonjour Danielle Jarkens.
Bonjour Ali.
Directrice de la rédaction du magazine Elle à table, avec à la une, manger sain, un vrai régal, avec en couverture une belle pizza appétissante. Vous êtes de gros manipulateurs chez Elle à table, parce que voilà, ça pousse à l'achat de ce magazine, cette pizza.
C'est l'objectif.
Elle est vraiment saine, cette pizza en couverture ?
Ah oui. Oui,
alors
elle est saine.
Il y a des artichauts, des champignons.
D'abord, elle est saine parce qu'elle est faite maison. Donc, quand vous faites maison, vous savez ce que vous mettez dans votre pizza. Et la pizza en tant que telle, souvent, on en a une image absolument épouvantable, mais ça dépend des ingrédients. Et si, effectivement, vous, entre guillemets, vous la chargez en légumes, il n'y a absolument aucune raison que ça soit mauvais pour la santé.
Alors, Danielle Jarkens, l'été est maintenant très loin. Nous avons fait le plein de fruits et de légumes qui nous ont donné un joli teint et qui nous ont aidé à conserver la ligne. Et cet automne, eh ben, on peut continuer à manger sainement en se faisant plaisir.
Oui, alors effectivement, souvent les gens ont l'impression que quand on parle de cuisine saine, ça renvoie à quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement léger. Et la plupart du temps, les personnes ont l'impression qu'ils vont avoir faim, que ça va être triste, que ça va être ennuyant. Alors qu'en fait, ça n'est absolument pas le cas. Ceci étant, ça nécessite un minimum de connaissances, de manière à savoir quels sont les produits sur lesquels on peut se baser pour donner à la fois de la consistance, pour donner une rondeur en bouche, qui est très importante pour ce côté justement gourmand, et puis pouvoir miser sur les produits de saison. Donc ça nécessite un minimum d'éducation aux produits et aux techniques de préparation.
Catherine Lacronière.
Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, nous, les nutritionnistes, nous avons toujours la réputation d'être tristes et restrictifs. C'est pas vrai. Bien manger, ça veut dire manger varié, ça veut dire manger goûteux et en même temps faire du bien à son corps, parce que c'est quand même notre fuel, notre alimentation nous permet de fonctionner normalement et de mieux prévenir les risques de santé.
Alors, quand l'automne et les premiers frimas pointent le bout de leur nez, quand il fait nuit de plus en plus tôt et que l'heure d'hiver, on commence à baisser la garde, on fait moins attention, on est davantage tenté par des aliments gras et sucrés. On se réconforte davantage avec des chocolats chauds bien épais et des brioches à la praline, plutôt qu'avec des bâtonnets de carottes. C'est une réalité physiologique, docteur Lacronière.
Ah oui, tout à fait. Surtout qu'à partir du moment où les jours deviennent moins importants et que la nuit tombe tôt, eh bien, on peut être un petit peu déprimé. Ça existe, la dépression saisonnière. Et qu'est-ce qu'on fait pour se réconforter? Eh bien, on mange. Et on mange, en effet, plutôt gras, sucré, réconfortant. Eh bien, on peut toujours manger réconfortant, mais en choisissant d'autres produits, en choisissant d'autres goûts. Ça ne veut pas dire qu'on évite cette merveilleuse brioche qui sent jusqu'ici. D'ailleurs, c'est dommage que nos auditeurs ne soient pas en plateau, mais franchement, il y a des choses à faire sans pour autant aller dans le déséquilibre
alimentaire. Daniel Jerkens, l'appel du sucre se fait beaucoup plus pressant à mesure que les mauvais jours, entre guillemets, les jours de pluie, de froid arrivent. Quelles sont vos stratégies pour ne pas trop succomber, vous qui êtes l'auteur d'un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, Zéro Sucre?
Et qui doit
vous
en
qui avez le bec sucré.
Oui, et qui doit en ce moment faire face à l'afflux des gâteaux de Noël, des bûches et des chocolats qu'on
pas
nous
encore,
envoie.
Mais...
Non, mais nous, en rédaction, ah, si, si. En fait, on nous les envoie à l'avance. Alors, la première des choses, c'est souvent de réaliser que l'appel du sucre rime avec des moments où on baisse un peu la garde, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on est stressé. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Souvent, l'appel du sucre n'est pas, ne vient pas de nulle part. Plus on mangera des aliments qui contiennent des fibres, plus on mangera des aliments avec des indices glycémiques bas et qu'on va mettre longtemps à digérer, moins on aura de pics de glycémie, donc moins de coups de fatigue, donc moins d'envie brutale, tout à coup, de quelque chose de très sucré. La troisième chose, c'est que pour éviter de sombrer dans le chocolat à un certain moment, il peut être bon de...
Sombrer avec plaisir.
Non, sombrer avec plaisir. Moi, la première, j'aime ça et j'en mange un petit peu de temps en temps. Mais il faut éviter la frustration totale. Parce que la frustration totale, ça ne marche pas et notre organisme est bien plus intelligent que nous et il va de toute façon franchir les barrières. Donc, il faut s'accorder à certains moments un peu de plaisir, notamment avec du chocolat, pourquoi pas, sans non plus sans vouloir et se culpabiliser de cela.
Catherine Lacronière.
Alors justement, comme disait très bien Daniel, la restriction, c'est quelque chose qui va entraîner les fringales, le grignotage, donc il faut être rassasié. Pour être rassasié, il faut choisir ce qu'on appelle les faibles index glycémiques, et c'est pour ça que tous ces régimes qui suppriment les féculents, les légumineuses, eh bien, ils conduisent obligatoirement à des appels de sucre importants entre les repas, appels de sucre et généralement de gras. Donc il faut favoriser ces index glycémiques bas et des protéines qui vont rassasier. Et puis si vraiment l'appel de sucre est important, et bien ponctuellement, on peut faire appel au chrome. Le chrome, c'est un oligo-élément qui rééquilibre le taux de sucre entre les repas et qui peut permettre de limiter justement ces petites envies trop pressantes vers le sucre.
Je suis pas sûr que le chef Grégory Cohen soit très soit un adepte du chrome.
Ben, j'ai l'impression d'être le grand méchant loup en fait ici.
Vous êtes le loup qui a porté la tentation avec votre brioche.
C'est terrible, c'est terrible. On est deux. Alors ça déjà, ça me rassure. Ali, un petit peu.
Un petit peu choqué de.
Merci, ça va. Non, mais le alors il y a une notion qui est très très importante qui est la notion de plaisir, on en a parlé et je pense qu'elle est essentielle. Il y a une autre notion qui est les petits plaisirs de la vie. Moi, j'appelle ça les petits plaisirs de la vie. Quand on va se faire un plaisir sur de la confiserie, évidemment qu'on va pas faire un repas entier avec de la confiserie, évidemment qu'on va pas faire un repas entier avec de la pâte à tartiner ou avec du sucre, ça n'a pas de sens. Mais se faire plaisir de temps en temps, ça déclenche un peu de dopamine, ça déclenche certaines choses dans le cerveau qui nous font nous sentir bien.
Mais ça tombe sous le bon sens, mais il vaut mieux préparer sa propre brioche maison, prendre le temps de la confectionner plutôt que de l'acheter toute prête. Et on en mangera sans doute moins parce que voilà, on aura mis des ingrédients plutôt de qualité. Et puis on va l'apprécier.
Eh ben complètement. D'ailleurs, j'ai une anecdote, Ali. Je sais que vous êtes friand des anecdotes, Ali Rebéi. J'ai tous les dimanches avec mes enfants, on fait la pizza. Et alors, c'est un moment qui est et ludique et de plaisir parce qu'elles font les formes de pizza qu'elles veulent, ça c'est super drôle, et ensuite on a une base tomate et on rajoute à peu près ce qu'on veut dessus, ce qu'elles veulent dessus en fonction de ce que je leur mets à disposition.
De
c'est
saison.
Super chouette et de saison évidemment.
Bonjour Patrick Serog.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste. Alors vous avez publié il y a quelque temps un ouvrage consacré aux kilos émotionnels. Est-il préférable de succomber ou bien faut-il lutter contre les pulsions sucrées qui nous assaillent quand le moral baisse et que le stress pointe le bout de son nez en fin de journée et surtout quand les jours raccourcissent?
Ben, le meilleur moyen finalement de lutter contre ces pulsions qui nous assaillent de temps en temps, eh bien, c'est de les institutionnaliser. C'est-à-dire, en fait, par exemple, prenons le chocolat, parce que c'est un aliment couramment utilisé, eh bien, on va prendre un petit peu de chocolat tous les jours. Et même sur tous les jours, on n'a pas envie. Parce que le jour où on n'a pas envie, eh bien, le fait de devoir prendre le chocolat diminue les compulsion sucrée qu'on peut avoir sur le long terme.
Stéphanie Texier, notre réalisatrice, me demande dans le casque, c'est quoi un petit peu de chocolat?
C'est par exemple 30 grammes de chocolat. 30 grammes, c'est un tiers d'une plaquette de 100 grammes, c'est 5 à 6 morceaux de chocolat, et on peut les prendre tous les jours sans du tout prendre du poids. Hein.
Quels sont les mécanismes cérébraux de la frustration, Patrick Serog?
Les mécanismes cérébraux de la frustration sont avant tout des hormones. Puisque pour avoir notre plaisir, eh bien, il faut qu'on ait une certaine concentration de sérotonine. La sérotonine, ça permet le passage entre les neurones, finalement, d'information et d'information du plaisir. Et lorsque cette sérotonine va baisser un tout petit peu entre deux neurones, la communication va mal se passer, les neurones vont s'affoler, et effectivement, on va avoir à ce moment-là envie de sucrer, selon notre humeur et selon les émotions qui nous assaille, car c'est l'émotion qui va en fait déclencher ce phénomène de frustration.
Catherine Lecronnière.
Oui, c'est l'émotion qui crée le déséquilibre ou le stress ou l'ennui ou le fait d'être fatigué. Donc il y a un déséquilibre quelque part que l'on va compenser avec du chocolat.
Oui, mais on le sait quand les jours raccourcissent, là, l'heure d'hiver va arriver dans une quinzaine de jours, il va y avoir, et on le sait, une baisse de morale généralisée et l'envie de se précipiter vers les paquets de chouquettes ou sur les tablettes de chocolat.
Donc, et comment... que faire quand on ne peut pas aller au soleil?
Exactement. Ah oui, tiens, la question de la vitamine D qu'on posera tout à l'heure, justement, Daniel Jerkens.
Je dirais, pourquoi ne mangeons-nous pas des poissons gras? Vous allez me dire, mais d'où sort-elle
pas
ça?
Pas au goûter, pas, pas au goûter. Heures, quand même.
Ou des noix et des noisettes, des oléagineux, ouais. Parce que dans tout cela, il y a des oméga-3 et il y a un certain nombre d'études qui montrent que manger des oméga-3, eh bien, ça peut aider à lutter contre ces petits signes de dépression saisonnière et puis éviter peut-être d'aller se jeter sur du chocolat. Quant au chocolat, c'est un très bon aliment, à partir du moment où il est noir, de préférence, et il est consommé avec modération, parce que manger du chocolat noir, eh bien, ça vous met de bonne humeur grâce aux endorphines.
Merci beaucoup Patrick Serog. Catherine Lecronnière, l'alimentation grasse et sucrée est un facteur d'inflammation, surtout s'il s'agit d'aliments industriels ultra transformés.
Ah oui, tout à fait. Les aliments ultra transformés, ceux qui ont donc subi de nombreuses transformations, il ne reste pas grand-chose de nutritionnellement équilibré, parce qu'on leur a rajouté du sel, du gras, du sucre.
Des additifs.
Des additifs. On est très 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 loin de la cuisine de Grégory Cohen. Oui, en effet, ces aliments vont favoriser l'inflammation, une inflammation chronique, souvent invisible, qui se situe au niveau de la cellule, donc il faut aller regarder au niveau du microscope. Et cette inflammation chronique invisible va favoriser toutes les maladies insidieuses, dites du siècle, du diabète.
À bas bruit,
tout à fait. Maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et même cancer, adorent l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, on la trouve aussi, et là elle est bruyante.
Mais rassurez-nous, ce n'est pas en succombant à une tablette de chocolat ou un paquet de biscuits fin de journée, quand le moral baisse au moment de l'arrivée de l'heure d'hiver, que voilà, c'est à bas bruit et il faut que
tout
ce soit
tout à fait, ce sont des années de mauvaises expériences, c'est des années de déséquilibre alimentaire, et au contraire être trop sérieux, trop restrictif, et bien là aussi c'est dangereux.
Grégory Cohen.
Et là je rebondis, je suis mais hyper d'accord, en fait le vrai problème c'est lorsque l'aliment est transformé. On va parler par exemple pour de l'huile d'hydrogénation, ou alors un nouveau terme qu'ils ont inventé sur lequel on n'a pas de recul encore, qui est l'interestérification.
C'est quoi ça?
Ah bah c'est magnifique. En fait, ça transforme de l'huile en un aliment solide.
Ah oui.
Donc c'est le principe de la margarine. Hein,
qui est magnifique. Et donc on va l'utiliser. Alors un peu différent la margarine, mais par exemple l'hydrogénation, on va couper. C'est comme si vous aviez un sublime olivier. Et puis on va lui couper toutes les branches, il va rester un tronc et on va lui dire voilà, ceci est un olivier. Le problème c'est que son corps va pas l'analyser du tout comme un olivier, puisque en fait il va dire mais non, c'est un tronc. Donc il va le stocker dans un endroit qui est plutôt mauvais et ça va créer après toutes les maladies dont on vient de parler.
Le problème c'est que les gras hydrogénés donnent de la texture, du goût, du croustillant,
et surtout,
c'est vrai que les industriels ont beaucoup beaucoup de mal à se passer de ces huiles hydrogénées dans leurs produits, Daniel Jerkens.
Notamment parce qu'elles sont très peu chères. Elles sont très très peu chères, il faut en parler.
Et elles rancissent pas.
Elles ne rancissent
pas. Ou quasiment pas.
Elles sont solides à température ambiante et elles sont très peu chères. Mais aujourd'hui, on fonctionne dans un système où on veut manger toujours moins cher. Je pense que nos organismes sont les mêmes que ceux d'un homme des cavernes. Ils n'ont pas évolué depuis. Est-ce qu'un homme des cavernes ou un homme de l'Antiquité reconnaîtrait la plupart des aliments qu'on ingère aujourd'hui ? Non. Or, nos organismes sont faits pour fonctionner de cette manière-là. Donc, vouloir manger toujours moins cher des aliments qui sont complètement artificiels, c'est prendre un risque. Or, c'est prendre un risque avec le seul véhicule qu'on ait, qui est notre organisme.
Allez, dans quelques instants, coup de projecteur sur les champignons. Quelles sont leurs qualités nutritionnelles? Comment les choisir quand on se promène dans les bois cet automne, comme Christine Appelé-Douel? Et quelles sont les bonnes recettes simples pour se régaler? Ça sent déjà l'ail et le persil dans le studio. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et on écoute un titre de 1968. Cette année-là, naissait Céline Dion et disparaissait la créatrice du Club des 5 et de Oui Oui, Enid Blyton. Belle journée à l'écoute de France Inter. C'est bon, Aretha Franklin, Chain of Fools.
Grand bien vous fasse.
On n'est pas bien.
Si.
Paisible. À la fraîche.
À lire EBI.
On est bien, hein. Ouais, mais c'est bien d'être bien.
Sur France Inter.
Mais oui, on est bien à 10h24. Comment manger bon et sain cet automne? C'est notre thème ce matin avec la complicité du magazine Elle à table. Avec nous, Daniel Jerkens, la patronne du magazine, le docteur Catherine Lacronière et le chef partisan d'une cuisine triste et peu gourmande, Grégory Cohen.
Pas du tout, pas du tout.
Grégory Cohen. Et avec Christine Appelé-Douel, notre complice. Vous remplacez donc cette semaine Guillemette Audicino. Et
avec
comme
plaisir.
Elle, l'automne venu, vous êtes une grande amatrice de la cueillette des champignons en forêt, du côté de Fontainebleau. Expliquez-nous un petit peu votre randonnée.
Alors, c'est devenu au fil des années une tradition. Voilà, c'est un plaisir, c'est une fête, c'est une joie. On attend avec impatience l'arrivée des champignons. D'ailleurs, au passage, cette année, c'est un peu... c'est pas terrible. Le plaisir, c'est en réalité à la fois l'anticipation, la balade en forêt, la joie de tomber sur les champignons. Chaque fois que quelqu'un en trouve un dans la famille, c'est un cri « Ouais, j'en ai un, j'ai trouvé, voilà ». Évidemment, la promenade elle-même, avec le chien, avec tout ça. Le retour à la maison, le nettoyage, la préparation, tout le monde ensemble des champignons, donc et le menu traditionnel que nous aimons dans cette famille faire tous les ans, c'est archi simple, c'est une omelette au cèpe, une bonne salade et dessert, une tarte au citron. Voilà, tout simple, mais ça c'est le menu réclamé par toute la famille tous les ans. Et c'est l'ensemble qui est important, c'est-à-dire le fait de faire tout le monde, toute la famille en même temps, et le plaisir vraiment de la balade, les odeurs, les sensations, même si on ne trouve pas grand-chose, c'est pas très grave, c'est pas très important, c'est vraiment le tout, et c'est, alors évidemment, quand on mange cette omelette, elle a un goût absolument incomparable, une saveur incomparable. Bah, il faut dire que les cèpes, c'est quand même quelque chose. Je fais très attention, d'ailleurs, à ce que je ramasse. Pas de champignons dans le même sac, on sépare bien les champignons, de préférence des paniers, pas de sac en plastique, voilà.
Daniel Jerkens.
C'est drôle ce que vous dites, parce que moi j'ai une anecdote comme ça aussi, j'avais un beau-père qui était un cueilleur de champignons incroyable, et qui quelques semaines avant son décès nous a remis solennellement une carte de la forêt de Saint-Germain, sur laquelle il avait noté chaque parcelle. Coins. Avec trompette de la mort, cèpe, girolle. Bon, alors je dois avouer que n'étant pas du matin, on y va assez rarement. Et les rares fois quand on y va, généralement tout a été ramassé. Mais c'est vrai que ça fait partie. D'abord, c'est un vrai rituel, comme vous le dites. Ouais. Ensuite, c'est vraiment un produit qui est lié à une saison et qui, je trouve, permet de quitter le bonheur de l'été avec finalement beaucoup de joie, parce que c'est un rituel ultra saisonnier.
Docteur Catherine Lacrenière, quelles sont les qualités nutritionnelles des champignons qui sont composés à 80-90% d'eau?
Oui, c'est pour
ça. Ils
sont
très peu caloriques d'abord.
Exactement, 21 calories au 100 grammes. Donc on est dans la partie basse des calories de légumes qui sont déjà par définition peu caloriques. Alors c'est un produit qui est riche en cuivre et le cuivre est très intéressant parce que d'abord il est antioxydant, il lutte contre ces radicaux libres qui favorisent le vieillissement accéléré des cellules et les maladies chroniques dont on parlait tout à l'heure. Et il joue un rôle dans le système immunitaire. Et puis il y a plein de vitamines B, vous savez, elles ont toutes des numéros, B2, B3, B5 pour les cheveux, B9, la vitamine importante, en particulier pour les femmes enceintes, pour limiter le risque de malformation en début de grossesse.
Riche en oligo-éléments également.
Et puis il y a du potassium. Le potassium, c'est important pour maintenir une bonne pression artérielle, c'est aussi important pour lutter contre la rétention d'eau et pour le fonctionnement du système nerveux.
Et puis c'est un aliment riche en protéines qui est très rassasiant en fait.
Tout à fait. Dès qu'on a des protéines, on est là dans les protéines végétales, on a moins faim derrière. Alors c'est vrai qu'en plus, il a les couleurs de l'automne et il permet de faire des plats qui sont tellement appétissants qu'on en sera vite rassasié.
Bonjour Gérald de Grune.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes l'un des grands spécialistes des champignons à l'Office National des Forêts. Alors je voudrais pas corriger en public Catherine Lacrenière, mais c'est un légume le champignon, je ne crois pas.
Non, en fait les champignons c'est vraiment un règne à part. Avant c'était, autrefois c'était classé avec les plantes, mais aujourd'hui c'est vraiment un règne à part à côté des animaux et des végétaux. Il y a d'autres petits règnes aussi qui sont liés aux champignons historiquement.
Mais par commodité on parle de légumes, hein, enfin dans le langage de tous les jours.
Mais on devrait pas.
Mais on devrait pas, je suis totalement d'accord avec vous. Quelles précautions, Gérald de Grune, doit-on prendre quand on part cueillir des champignons en forêt?
Il y a trois types de conseils à donner. Déjà, avant de partir, il vaut mieux informer vos proches que vous partez en forêt et puis leur dire où vous allez, parce que tous les ans, il y a des gens qui se perdent. Il faut vous équiper en effet d'un panier, parce que les champignons sont fragiles et ils peuvent s'abîmer, s'écraser, surtout s'ils sont transportés dans un sac plastique. Une fois en forêt, c'est vrai que lorsqu'on recherche les champignons, on a le nez par terre et il faut faire attention à bien s'orienter, pas se perdre. Et puis, quand on a la chance de croiser des champignons comestibles, eh bien, il faut les ramasser de taille adulte, en bon état. Souvent, les champignons abîmés, par exemple, par le gel, sont très très indigestes, même si ils sont comestibles. Et puis, contrairement aux idées reçues, il faut les arracher plutôt que de les couper avec un couteau.
Ah, pourquoi ?
Mais parce que au niveau de la base du pied du champignon, il y a des indices qui permettent à l'identification et qui vous permettront d'éviter de vous tromper. Par exemple, c'est la forme du pied, soit il est en forme de racine, radicant, on dit, soit il est arrondi, ou alors il peut être muni de mycélium de couleur, par exemple, qui permettent aussi à identifier le champignon. Et en les arrachant, en fait, il faut quand même respecter l'humus. Moi, j'ai vu plusieurs fois des gens qui ramassaient les champignons avec un râteau. Quel scandale. En fait, il faut vraiment arracher les champignons très délicatement en respectant la mince couche de matière organique qui constitue le sol forestier et qui est propice à la vie des champignons, mais à la vie de l'arbre aussi.
Que faire en cas de doute, Gérald Grune? On va chez le pharmacien, même, bon, je ne sais pas si tous les pharmaciens sont formés, normalement oui, de par leurs études, mais on va chez le pharmacien si on a un doute?
On a plusieurs ressources, évidemment, avec le maillage des pharmacies en France. Ben, le pharmacien, c'est la personne de proximité la plus apte à vous aider à confirmer une identification. Il faut aussi avoir ça en tête, c'est que si vous avez le moindre doute, si vous avez ramassé un champignon qui ressemble pas exactement à ce que vous ramassez d'habitude, surtout ne le mangez pas. Mmh. Il y a tellement de bonnes choses à manger, ne prenez pas le risque de vous empoisonner. Et ça aussi c'est important, quand vous rentrez le soir à la maison, prenez le temps de trier calmement votre panier, vous ressortez les champignons les uns après les autres, vous observez votre récolte. Et des fois, il arrive que, bah, surtout quand on ramasse en famille avec des gens qui ont des niveaux de cueillette différents, il arrive qu'on trouve des champignons non comestibles dans un panier de champignons comestibles.
Priscilla Pellédouane.
Oui, j'ai une règle toute simple. Hein, je ne ramasse que, en effet, les champignons que je connais. Je pense que c'est la meilleure règle et la plus simple à donner et à appliquer. Ne jamais ramasser de champignons dont on n'est pas sûr et certain. Donc, en ce qui me concerne, c'est...
des cèpes.
Pas seulement, mais c'est, on va dire, 4-5 espèces de champignons et les autres... Je n'y touche purement et simplement pas.
Voilà. Gérald de Grune, pourquoi les champignons sont-ils essentiels à la forêt?
Eh bien, en fait, la terre ne serait pas telle qu'on la connaît s'il n'y avait pas de champignons, en raison de l'association mycorhizienne, c'est-à-dire que dans le sol, les champignons, une partie des champignons sont en liaison avec les plantes vasculaires et sont très très efficaces pour collecter l'eau et les nutriments à l'intérieur du sol. Et les champignons donnent ces matériaux à l'arbre qui en échange va nourrir le champignon. C'est ce qu'on appelle une relation de bénéfice réciproque, une symbiose. Et c'est grâce à ces champignons dans le sol que les plantes sont efficaces pour pouvoir se développer.
Merci beaucoup, hein, Gérald de Grune de l'Office National des Forêts.
Et puis alors je voudrais vous expliquer tout de même ce que je vous ai promis, c'est la façon d'éplucher les cèpes. Vous savez que nous ne les lavons pas. On ne lave pas les champignons.
Vous demander, ils ont l'air très propres.
Alors, voyez-vous, on enlève d'abord la queue, comme ceci. Ensuite, on les ébarbe, comme ceci. On enlève, voyez-vous, de façon à pouvoir arriver à l'intérieur. On les essuie d'une façon avec un linge très propre. Tout le monde dit avec beaucoup de précaution parce qu'on ne peut pas les écraser. Oh, du sable, du sable. Et puis, voyez-vous, on enlève les parties mâchées, comme ceci, avec la pointe d'un couteau qui coupe bien, comme un rasoir.
On se coupe pas les doigts.
Et puis alors, par contre, alors, on épluche les queues complètement.
Ah ça, il faut les éplucher comme une pomme de terre.
Comme une pomme de terre.
Et c'est comme ça qu'il faut les éplucher. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les laver pour pas redonner de l'eau?
Ah, parce que d'abord, on redonne de l'eau. Et puis enfin, il y a des parfums très subtils dans les champignons qui risquent d'être dissous. Alors, on doit les garder à coûte que coûte.
Conseil du chef Raymond Oliver avec Catherine Langer, conseil qui n'ont pas pris une ride. Chef Grégory Cohen, comment ne pas rater sa poêlée de cèpes?
Ah alors, de cèpes?
D'autre chose, hein, de ce que vous voulez.
C'est un peu différent. Si je fais une poêlée de girolles, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher Ali Rebéi, il y a plus de 90% d'eau dans les champignons. Et en fait, cette eau, on va la découvrir à partir du moment où on va les mettre à chauffer. Ils vont lâcher leur première eau. On va attendre que cette eau se soit évaporée. Et là, on va rajouter un petit peu de beurre, un peu d'huile d'olive, éventuellement, pour équilibrer, mais moi, généralement, je mets que du beurre, avec un petit peu d'ail, et puis du persil plat, si on aime. La cèpe, c'est un petit peu différent. Je vais, en fait, la quadriller, et je vais la marquer de façon à ce qu'elle soit un petit peu croustillante. Ensuite, je vais remettre par-dessus un couvercle de manière à la finir à l'étouffer un petit peu. Et du coup, elle va être croustillante là où je l'aurais quadrillée et fondante à l'intérieur.
Vous dites la cèpe, vous?
La CEP, le CEP. Moi, je suis très, très ouvert.
Fluide, hein. Très fluide. Voilà,
je suis pour la parité.
Petite précaution, hein, un auditeur nous dit qu'il faut bien se renseigner sur les jours et lieux de chasse en forêt domaniale et de s'habiller avec un vêtement voyant. Daniel Jerkens, cet automne, pour manger sainement, on peut miser sur les légumineuses au moins une fois par semaine. Hein.
Ah, au moins, voire même deux. L'idéal, ce serait deux fois par semaine. Mmh. On peut monter à trois. D'ailleurs, ça marche assez bien avec les champignons. Je pense qu'on peut faire un mix des deux. Oui, lentilles, pois chiches.
Haricots secs.
Fèves. Oui, fèves. Le choix est très, très vaste. Et c'est vrai que c'était des aliments très courants dans notre alimentation. Je pense dans l'alimentation de nos grands-parents, arrière-grands-parents. On en consommait quasiment quotidiennement. Et qui ont quasiment disparu du jour au lendemain. Enfin, en quelques décennies. Pour être remplacés par les céréales massivement. Aujourd'hui, on est une civilisation du blé, en tout cas en Europe occidentale. Et on les a perdus de vue. Il y a plein de choses à faire très, très faciles. Hein.
Tu as une salade de lentilles aux tomates confites.
Oui, là, on a donné comme recette dans le numéro en ce moment une salade de lentilles aux tomates confites. Alors les tomates, on est sur les dernières tomates, mais on trouve encore des tomates de saison jusqu'à la fin du mois d'octobre à peu près.
On peut utiliser des bocaux.
Alors on peut utiliser des tomates en bocaux, mais on peut le faire avec des dernières tomates, y compris d'ailleurs si elles ont été un peu abîmées. Hein, si on les nettoie et qu'on les cuit au four, c'est très facile. Vous faites cuire les légumineuses. Par principe, vous ne salez pas l'eau. Enfin, moi, je ne sale pas l'eau des légumineuses pour éviter qu'elles durcissent. Vous les faites cuire de manière à ce qu'elles soient un peu al dente. En parallèle, vous faites cuire vos tomates au four avec un tout petit peu d'huile d'olive, un peu d'épices, etc. Et hop, vous mélangez les deux, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, une gousse d'ail écrasée, des herbes fraîches si vous en avez. Et c'est excellent.
Catherine Lacronnière, sur les qualités nutritionnelles des légumineuses.
Alors, beaucoup de bénéfices nutritionnels pour ces produits. D'abord, des protéines végétales, ce qui est important, surtout pour les gens donc, qui sont végétariens et encore plus véganes, puisque c'est une des manières de trouver ces protéines.
Mais il est bon de les associer avec des céréales.
Exactement, puisqu'ils n'ont pas toutes les acides aminés. Donc, c'est là aussi où il faut une éducation nutritionnelle. Il y a un faible index glycémique, donc ça n'augmente pas trop le sucre dans le sang et ça donne une bonne satiété. Et puis, il y a des fibres et surtout, il peut y avoir des minéraux, dont le fer de la lentille, par exemple, dont manquent beaucoup de personnes, les femmes qui ont des grossesses répétées ou les végétariens et véganes.
Et il est potentialisé, ce fer, quand on l'associe avec un fruit qui contient de la vitamine C.
Tout à fait.
Évidemment. Alors, cet automne, on va célébrer les fruits et les légumes. Quels sont les grands fruits et légumes de saison, Catherine Lacronnière? Il y en a beaucoup, mais on peut en citer quelques-uns.
Alors, je vous ai fait un petit inventaire à la Prévert.
Exactement, allez-y.
En commençant par la betterave. La betterave et ses 47 calories. Donc, on a un
mauvais souvenir
petit peu...
de cantine.
Ah, c'est dommage parce que c'est tellement oui. Bon, bien sûr. C'est à ce goût sucré qu'elle doit au sucre, aux glucides. Mais il y a aussi des protéines et des fibres. Et puis, des vitamines. On parlait de la vitamine B9, mais il y a aussi la vitamine C et du potassium. Bien sûr, c'est la grande saison des crucifères, le brocoli. Le brocoli, il est très intéressant, comme le chou d'ailleurs, parce qu'il a des molécules qui sont des glucosinolates. Et ces glucosinolates, on en parle dans la prévention de certains cancers. Et puis il y a tellement de choux à choisir entre le chou fleur, le chou de Bruxelles, le kale, le chou rave, peu calorique également et riche en vitamine B9. La carotte, je suis désolée, mais qu'est-ce qu'on l'a maltraitée ? On l'a maltraitée parce que d'abord on l'a mal placée dans le tableau de l'index glycémique en disant qu'elle était très élevée, c'est pas vrai. Surtout la carotte cuite, l'index glycémique est bas et savez-vous que 100 grammes de carotte cuite, ça n'est que 19 calories. Et c'est plein de bêta-carotène, de caroténoïdes antioxydants. Et puis
les topinambours aussi.
Ah oui,
cette saison.
Topinambours ou artichaut de Jérusalem, ça dépend. Topinambours parfois, ça donne pas tellement envie. Si sur une carte on met purée de topinambours, c'est pas très vendeur. Si on parle de purée d'artichaut de Jérusalem, d'un seul coup on voyage
effectivement.
Alors ça peut être assez difficile à digérer. Non,
c'est terrible.
Ça peut nous transformer en gazoduc.
C'est terrible. Le topinambour.
C'est joliment dit ça.
On commence à avoir des confessions assez intimes. Sur cette émission.
Et vous savez de la faute à qui ? De la faute à l'inuline. Mais l'inuline.
C'est quoi l'inuline ?
L'inuline, c'est un glucide qui est dérivé du fructose et qui donne en effet, qui donne chez les intestins irritables une digestion assez délicate, comme on vient de parler. Mais l'inuline, c'est également un prébiotique, c'est-à-dire que ça nourrit les probiotiques, ces microbactéries bénéfiques qui vont permettre d'avoir une flore intestinale en bon état.
Alors vous nous avez apporté, Catherine Lacronnière, une recette de saison, une assiette de fenouil et de patates douces. par oui, exemple alors, ou alors vous pouvez parler de votre soupe orange d'automne.
Voilà, avec des carottes, des potirons.
Hein. Soupe orange d'automne.
Voilà. Bon, la patate douce, en fait, on la trouve en automne, mais on la trouve ailleurs aussi. Le potiron et les courges sont vraiment des produits de saison. Et cette belle couleur orangée, eh bien, c'est dû aux caroténoïdes antioxydants.
Quel est votre petit tour de main?
Alors là, je ne vais pas oser.
Devant Grégory Cohen. Vous, comment vous la feriez? Comment vous la feriez, cette salade avec des petits marrons et des patates douces? Quel est votre ingrédient secret? Ce serait quoi? L'huile d'olive, la crème?
Ah non, alors moi, je les caraméliserais. C'est-à-dire que je récupérerais, soit je les grillerais pour avoir cette espèce de réaction de Maillard qui va nous faire ressortir un petit peu les sucs et la caramélisation. Ça donnerait un petit goût assez intéressant. Et puis une couleur aussi qui permettrait de trancher le orange sur orange.
Daniel Jerkens.
Alors moi, ce que j'aime faire en cette saison, c'est prendre des carottes, des betteraves crues, éventuellement du brocoli, des topinambours, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi des patates douces. Je coupe tout en morceaux, je mets ça sur une plaque au four, avec un tout petit peu de cumin, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et en parallèle, je fais un pesto maison, une sorte de pesto maison avec du persil. Des fans de carottes, il y en a encore. Et vous servez ça très chaud avec le pesto dessus, c'est délicieux et c'est
ça,
rien à faire.
Et sans égourmand. N'hésitez pas à partager vos recettes gourmandes, saines et de saison. Je crois qu'à suivre, une auditrice va nous délivrer une recette de chocolat chaud à sa manière. J'attends ça avec impatience. 01 45 24 7000.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid. Sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile demain. Le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Stéphane Echer, interprété si tu veux. Stéphane Echer qui sera à l'affiche d'un concert triple avec Patrick Watson et Michael Kiwanuka mardi 22 octobre à 20h au studio 104 à la Maison de la Radio et ce sera évidemment diffusé sur France Inter.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart, comment manger bon et sain cet automne? C'est notre thème ce matin avec la complicité du magazine Elle à table. Cet automne, on peut peut-être, Daniel Jerkens, se limiter sa consommation de viande? C'est ce que vous préconisez dans
oui,
le magazine.
Oui, la viande, c'est un vaste débat. Moi, personnellement, j'en mange un peu. Je trouve ça très bon quand
vous êtes
elle est très bonne. Oui, on peut dire ça. Oui. Oui. J'essaie de choisir de la viande provenant d'animaux qui ont grandi dans de bonnes conditions. Donc j'avoue que je l'achète très rarement au supermarché, plutôt chez le boucher. Je ne me fais guère d'illusions. Je ne crois pas qu'il y ait des mises à mort heureuses d'animaux, parce que ça préoccupe beaucoup. Mais par contre, je pense qu'il peut y avoir des élevages heureux, ce qui est déjà quelque chose de différent. Ensuite, est-ce que je mange de la viande tous les jours? Non. clairement pas. De temps en temps, oui. J'aime quand elle est grasse, la viande, parce que ma devise, c'est le gras, c'est la vie. Ça donne du goût. C'est loin d'être aussi mauvais pour la santé qu'on l'a répété, qu'on l'a longtemps répété. Voilà.
Vous parlez sous le contrôle de Dr Catherine Lacroix.
Oui, d'ailleurs, je la regarde, je lui jette un œil, un coup d'œil.
On a fait une émission il y a une dizaine de jours sur ce sujet, évidemment.
Exactement. Alors, c'est sûr que c'est l'excès de consommation de viande rouge, mais surtout de viande transformée, hein, hot dog et autres corned beef, qui fait que ça devient un risque potentiel pour la santé. Mais de la bonne viande rouge, de bonne origine, mangée de manière raisonnable, ça fait partie de l'équilibre alimentaire.
Alors, on peut limiter la consommation de viande rouge et privilégier les volailles. Grégory Cohen, chef du 99 Haussmann, cet automne, bah, vous aimez préparer un poulet en croûte de sel. Mmh. Alors, a priori, ça me paraît fastidieux de préparer cette croûte de sel. Mais vous allez me démentir.
C'est super simple pour faire la croûte de sel.
Comment vous la faites, votre croûte de sel?
Alors, on a besoin de sel, évidemment, du gros sel, de l'eau, de la farine. Alors, je vais vous donner à peu près les proportions. C'est 300 g de farine, 300 g de gros sel, un blanc d'œuf et environ 10 centilitres d'eau. Ce que je fais, moi, c'est que je fais revenir très rapidement des échalotes, de l'oignon, un petit peu de carotte et un tout petit peu d'ail dans une poêle. Je réserve, je mets de côté, je colore mon poulet dans la poêle. Du coup, je récupère les sucs de cuisson des légumes que j'ai mis au préalable. Je le mets de côté. Ensuite, je fais ma pâte à sel. Bah, très, très simple. Je mélange
comme à la maternelle.
Je mélange tout. Je l'étale. Elle doit avoir à peu près 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Ensuite, je mets mon poulet côté dos en premier. Contrairement à ce que vous allez lire dans pratiquement tous les blogs ou autres de cuisine qui vous disent qu'il faut poser le poulet. Là, je le mets côté dos et je le referme. Pourquoi je le mets côté dos? Parce qu'après, je vais le retourner et il va cuire normalement. Mais... 1h30 à 180 degrés.
Quelle est l'utilité de la croûte de sel? D'un point de vue nutritionnel, par exemple?
Au niveau nutritionnel.
Catherine Lacronière.
Eh bien, d'abord, ça préserve les saveurs et ça préserve les minéraux, les nutriments. Ça évite l'imprégnation du gras de la chair parce qu'en fait, il y a une petite couche de vapeur qui se crée entre le sel et l'aliment. Et puis, en plus, ça permet, ce sel, d'absorber une partie des graisses. Et il n'y a pas de formation de composés toxiques comme il peut y avoir avec certains modes de cuisson, comme par exemple le barbecue.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne sale pas trop du tout l'aliment qui cuit.
Par contre, ça le parfume.
Ça le parfume, voilà. Ça ne le sale pas, et exagérément.
Et si je peux me permettre un petit point, ça enlève un petit peu de gras, mais en revanche, le poulet n'est pas sec. Il est hyper juteux, justement parce qu'il a cette cuisson un petit peu à l'étouffer, un peu vapeur, qui fait que ça va le conserver et que ça va lui permettre d'avoir un goût excellent.
Danette Jerkens, dans nos assiettes cet automne, on en profite pour croquer des graines?
Oui.
Noisettes, amandes, tournesol.
On n'en mange clairement pas assez. Comme nous l'a dit tout à l'heure Catherine Lacronière, c'est excellent pour la santé, c'est bourré d'excellentes graisses, c'est bourré de fibres, ça aide à réguler l'appétit, c'est antioxydant, c'est anti-inflammatoire, donc vraiment ça c'est quelque chose qu'on devrait manger quotidiennement. Mais et quasiment toutes les variétés
on
finalement.
On s'empêche parfois de manger des noisettes, des amandes, des noix, parce qu'on se dit tiens c'est très calorique et je vais peut-être éviter. Bah, on a tort,
bien sûr. Et puis après, on va pas manger 100 grammes à chaque fois. Une bonne poignée, eh ben, c'est très raisonnable caloriquement. Et puis, tout ce que disait Daniel est exact, avec en plus le fait qu'il y ait des protéines végétales, des fibres, donc des acides gras essentiels insaturés, souvent oméga-3 ou oméga-6. Et c'est vraiment un concentré de bien-être.
Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous avez une recette à nous proposer pour passer un bel automne.
Oui. Alors, je voulais vous parler du chocolat chaud.
Oh là là. Vous savez me prendre par les sentiments, hein.
Que je fais. Alors, je fais gonfler des dattes toute la nuit. J'en mets 2 ou 3 pour une grosse tasse de chocolat. Je fais tremper également une petite poignée de noix de cajou. Je mixe tout ça avec une cuillerée à soupe de chocolat noir sans sucre. Je fais chauffer, frémir une eau à 40 degrés. Et ensuite, je verse l'eau comme on verse un thé à la menthe pour faire mousser le chocolat. Et c'est excellent.
Catherine Lacronière, c'est diététiquement correct et gourmand.
Oui, c'est très gourmand, c'est peut-être aussi un peu calorique. Donc, bon, mais en fait, on s'en fiche à partir du moment où ça fait plaisir et qu'on en mange.
C'est fait avec amour et visiblement avec des produits.
Exactement.
Des produits
puis des noix de cajou. On parlait de tous ces oléagineux. Oui, c'est très bien. Bon, les dattes, juste un petit point. Je sais qu'Ali, ce n'est pas vos préférés, mais il y a quand même un très fort pouvoir sucré, un index glycémique supérieur à 100 hein, pour la date.
Merci beaucoup, Chantal. On va essayer de mettre votre recette sur la page Facebook de Grand Ne Vous Fasse. Bonjour, docteur Réginald Dallouche.
Bonjour.
Vous étiez
bonjour
venu
à vous inviter.
Vous étiez venu. Vous étiez venu en début de semaine pour nous conseiller une bonne alimentation anti-diabète et vous venez de publier un livre pour nous aider à préserver notre foie. Pourquoi est-il important de prendre soin de son foie, surtout en automne?
Tout simplement parce que le foie est un émonctoire, c'est un organe qui va vous débarrasser de vos toxiques, qui va métaboliser l'alcool, qui va métaboliser les médicaments et qui va réguler la glycémie. Il fait énormément de choses, il a plus d'une centaine de rôles. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'occupe jamais vraiment de son foie parce qu'il ne fait jamais mal. Vous savez que le foie n'a pas de terminaison nerveuse dans son parenchyme, comme on dit, dans sa fibre. Mmh. Et en fait, il fait jamais mal. Quand il fait mal, c'est un peu les ennuis qui commencent. Et donc, en fait, ce qu'il faut, et j'ai un petit peu écouté l'émission, et effectivement, on peut trouver des aliments qui vont permettre au foie d'être en bonne santé.
Alors,
bien évidemment, si vous êtes un grand sportif, si vous avez une vie extrêmement saine, ces conseils sont peut-être accessoire, mais pour la plupart des gens, le foie travaille beaucoup et on s'en occupe peu. Alors par exemple, vous avez le cresson, je ne sais pas si vous en avez parlé, le cresson est un excellent, en soupe ça peut être une excellente entrée, le poulet sans la peau, mais pas le poulet jaune malheureusement, parce que s'il est trop riche en oméga 6, c'est-à-dire des acides gras qui viennent du maïs, à ce moment-là il peut être un petit peu inflammatoire pour le foie. Je crois que Madame Lacronière en a parlé, le problème c'est l'inflammation. C'est-à-dire que le foie, lui, est très sensible à tout ce qui est inflammation qui viendrait de la flore bactérienne.
Il y a un aliment, Réginald Dallouche, qui me vient tout de suite en tête quand on parle du foie. Je pense aux artichauts que me recommandait ma grand-mère maternelle. Est-ce qu'on met des artichauts? Je ne sais pas si c'est de saison, les artichauts en ce moment. Non, pas vraiment.
Bon, non, alors, pas vraiment.
Alors, le radis noir, alors peut-être
Oui. En fait, ce sont des légumes. Quand on dit les légumes qui sont bons pour le foie, d'abord, il y en a beaucoup. On a parlé du chou, on a parlé des champignons, mais ils ont une caractéristique, ceux qui sont particulièrement conseillés pour le foie, comme l'artichaut, c'est qu'ils permettent d'augmenter la sécrétion de la bile. La bile, c'est ce qui va permettre la digestion. Mais en fait, à part cette caractéristique qu'on appelle hypercholagogue, c'est-à-dire qu'elle fabrique plus de bile, eh bien, leur rôle est peut être un petit peu secondaire quand même. Ça n'est pas une panacée. Quand on pense avoir des problèmes de foie, quand on a des problèmes d'insuffisance hépatocellulaire, comme le terme technique, à ce moment-là, il faut vraiment essayer de changer son mode d'alimentaire et puis de favoriser les champignons. On a parlé des champignons tout à l'heure, qui sont excellents. Tous les légumes, en fait, qui sont riches en fibres. Pourquoi? Parce que les fibres sont très importantes pour la flore bactérienne. Il faut bien comprendre que l'intestin et le foie sont des confrères. Ils ont été créés dans la période fœtale. Ils ont été créés en même temps. Ils ont des relations extrêmement fortes et tout ce qui est dans votre intestin va passer par la veine porte, par le foie. Donc en fait, la santé de la flore va conditionner la santé du foie. Et on a parlé, vous avez parlé des lentilles, particulièrement des légumineuses, qui ont un avantage énorme, c'est qu'effectivement, le taux de sucre et les sucres sont inférieurs aux féculents et que surtout, ils comportent moins de, ils sont moins rapides à absorber. Donc le foie a le temps de les gérer. Le foie a des ennemis hein, tout de même. Hein. Foie, il a
l'alcool. Des ennemis.
L'alcool. Bon, ben l'alcool, quand c'est raisonnable, ça va encore. Le problème de quand vous buvez de l'alcool, le foie arrête tout. Et il faut métaboliser l'alcool. Et vous comprenez bien que s'il arrête tout, eh bien, par exemple, il va pas s'occuper des médicaments, il va pas s'occuper des graisses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de ne pas prendre d'alcool quand on prend des médicaments. Mais il y a aussi le fructose, ce sucre des fruits qu'on a dans les jus de fruits. Et s'ils arrivent d'un coup, hein, un jus d'orange, c'est 4 oranges d'un coup, eh ben le foie va se retrouver à gérer le fructose. Et comme il est le seul à transformer le fructose en carburant qui est le glucose, eh ben à ce moment-là, il va se retrouver un peu engorgé. Donc au fond, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver et de fouiller dans les aliments qui vont permettre au foie d'avoir une vie douce, au moins pendant 15 jours, un mois, pour qu'il puisse se régénérer, parce que vous savez que le foie est le seul organe qui est capable de se régénérer après un incident.
Catherine Lacronière.
Et c'est ce que dit le docteur Allouche, est tout à fait exact sur les relations entre le foie et la flore intestinale, le microbiote. C'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau, on en a beaucoup parlé. Ce microbiote, eh bien, il faut le nourrir avec des prébiotiques, avec des fibres qui certes peuvent être mal tolérées par les patients colopathes, mais qui vont nourrir ces fameuses microbactéries, ces probiotiques, et notre intestin est souvent bien mal en point avec l'alimentation ultra transformée.
Merci beaucoup, docteur Réginald Allouche. Une question d'auditeur sur l'utilité de la vitamine D avec les jours qui déclinent, Catherine Lacronière.
Ah oui, quand on sait que 75%, voire même 80% de la population française n'aurait pas assez de vitamine D, on n'est pas dans la carence, on est dans l'insuffisance. 5% seraient vraiment carencés. La vitamine D, elle est primordiale. Elle est primordiale pour fixer le calcium sur l'os, donc pour éviter tous les problèmes ostéopénie, ostéoporose ou une maladie qui s'appelle l'ostéomalacie. C'est également important pour le fonctionnement des muscles et on le sait maintenant, les déficits en vitamine D vont favoriser des problèmes de maladie immunitaire, des problèmes d'inflammation chronique et même peut-être certains cancers.
Daniel Jerkens, les bocaux, il y a un papier dans le L à table en ce moment, peuvent nous permettre de manger sain. Les bocaux, c'est pratique et anti-gaspille.
Oui. Oui, on devrait,
à la mode en plus.
On devrait tous essayer de temps en temps de faire un peu de bocaux à la maison. C'est le meilleur moyen de conserver des fruits et des légumes de pleine saison, de savoir exactement ce qu'on va manger. C'est pas très long à faire.
Ça a l'air compliqué de stériliser ces conserves maison.
Honnêtement, c'est pas très
compliqué.
Vous
avez un mode d'emploi, Daniel Jerkens?
Oui, alors, mon mode d'emploi, personnellement, c'est d'avoir de bien laver les bocaux ou à l'eau savonneuse. Idéalement, vous les passez au lave-vaisselle derrière. Ils sont quasiment stérilisés. Déjà, ils sont à 80 degrés. Derrière, pour les stériliser, on peut les faire bouillir dans une casserole. Moi, personnellement, comme je suis un peu flemmarde, je les passe au four. 180 degrés au four, il n'y a plus grand-chose qui survit, à part les prions, mais normalement, il n'y en a pas dans les légumes. Ensuite, je prépare mes légumes en les faisant plus ou moins cuire. Souvent, je fais des bocaux de tomates, ce genre de choses. Hop, je remets dedans, je referme le bocal et je remets au four, à 150-180 degrés. Et derrière, vous laissez refroidir. Et il y a un petit truc qui peut être pas mal. Vous faites refroidir vos bocaux à l'envers. Et puis ensuite, vous les conservez dans un endroit frais. C'est vraiment une technique très très simple, qui est en train de revenir d'ailleurs pas mal, avec beaucoup de petites marques qui se lancent là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on devrait tous essayer de faire un peu de temps en temps. Et puis c'est quand même génial en hiver de ressortir un bocal qu'on a fait l'été. Enfin.
Exactement, Christy Lapelle-Edouard.
Oui, moi j'adore ça aussi, faire des bocaux, les confitures.
Tiens, c'est quoi les confitures maison en ce moment, de saison?
De saison, des prunes, hein. Il y a encore des prunes.
Les dernières mirabelles, des
les
prunes.
Les murs,
les figues. Que vous n'aimez pas.
Attention, pour avoir l'appellation confiture, c'est plus de 55% de sucre.
Exactement. Oui, alors qu'on peut désucrer quand même souvent un peu les confitures.
Ça s'appelle plus une confiture.
Beaucoup de questions. Rappelez-nous quand même quels sont les légumes de saison à mettre dans son panier, là en ce moment, si on va au marché ce week-end. Grégory Cohen.
Ah, ce que vous adorez, Ali, avec les dates évidemment, les châtaignes.
Ouais.
On commence à arriver sur la saison des châtaignes, on commence à avoir les premières noix. On a les pommes qui sont là.
Les kakis.
Alors, c'est très très étonnant tout ce qu'on va appeler, surtout en hiver, les légumes de saison, parce qu'on va parler de légumes de saison qui vont s'entrechoquer complètement avec le côté locavore, puisque en hiver on va arriver sur tout ce qui est fruits exotiques et qu'on est très loin du locavore.
Grégory Cohen, un mot sur la belle initiative Repas Toqué qui permet d'améliorer la qualité des repas des jeunes hospitalisés en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris et l'association Princesse Margot. En quelques mots, Repas Toqué.
Très important pour moi. Ça part d'un constat qui est que ce que l'on mange à l'hôpital n'est pas vraiment très très bon, ni ne donne très envie. On a tous eu ici autour de la table une relation soit bonne avec un hôpital parce qu'on a donné naissance à un enfant, soit mauvaise parce que malheureusement on a dû y passer. Et la constante, c'est le plateau qui est absolument mauvais. On a travaillé avec les équipes de Saint-Louis, j'ai formé les équipes des cuisines de Saint-Louis pour conserver leurs contraintes, 1,50€ le plat principal et réussir à le cuisiner avec des sauces, des grillades, des marinades pour créer quelque chose d'appétant et de bon.
Et de saison dans la mesure du possible.
Et de saison et d'origine française et de pêche sauvage.
Merci beaucoup Grégory Cohen pour cette belle initiative Repas Toqué. Merci Catherine Lacronière, merci Christine Lapelédouelle et Daniel Cherkens. Le numéro de la table est évidemment disponible en kiosque. Merci aux standardistes de France Inter et à la très belle programmation de Muriel Pérez. Lundi, on s'intéresse aux tests génétiques qui permettent de dépister certaines pathologies. 01 45 24 7000.